Dans la vieille rue, première partie, chapitre 5. 5 heures venaient de sonner au cadran de la vieille horloge. Sur le boulevard, le soleil plombait encore, mais dans la ville haute, l'ombre tombait déjà, enveloppant d'une teinte plus noire les vieilles maisons aux corniches saillantes. Partout les stores se relevaient, on entendait le grincement des anneaux sur les tringles de fer. Geneviève, elle aussi, ouvrit sa fenêtre et jeta un regard distrait sur la descente de la rue. Elle vit ce qu'elle voyait toujours, les mêmes vulgarités banales, des passants affairés, des filles du comptoir échangeant leur bavardage bruyant sur le seuil des boutiques. Elle allait se retirer et reprendre sa tâche interrompue lorsque ses yeux accrochèrent contre la maison d'en face un point lumineux, une apparition blanche. Elle se pencha pour mieux voir. « Que regardes-tu, Geneviève ?» demanda Maximin. Mais elle, impatiente, répondit « Laisse donc, je te dirai après. » De tous ses yeux, elle contemplait la robe claire qui filait vis-à-vis d'elle, frôlant le mur sale avec un bruissement de soie et de batiste empesée. La femme s'arrêta devant la vieille église, hésita un instant, regarda de tous côtés, en bas, en haut, avec de jolis mouvements incertains, puis bravement s'engagea dans le sentier qui montait d'une pente forte vers le coteau. Quelque temps, le long des degrés de pierre, sa silhouette se détacha, nette et claire sur le ciel bleu, puis elle disparut à un tournant de route, pour reparaître un instant après, comme un point noir presque déjà imperceptible à l'œil. Alors, les paupières clignotantes, Geneviève se retourna vers la chambre sombre. « Qu'as-tu vu, sœur ?» demanda l'enfant impatient. Dans son existence monotone et terne, le moindre incident excitait une curiosité âpre. « Si tu savais, petit, une si jolie dame !»«
Comment était-elle ? Raconte vite !»«
Toute blanche, avec des cheveux d'or rouge !» Comme la fée de mon livre d'images, tu sais bien, s'écria Maximin très excité. Et où elle est-elle? Il ne passe jamais de jolies dames dans notre rue. Geneviève ne répondit pas. Elle aussi se demandait où la dame pouvait bien se rendre. Que je voudrais la voir, continua le petit garçon avec un soupir de convoitise. Peut-être reviendra-t-elle. Dis, le crois-tu?
« Sans doute, je le crois. Il n'y a pas d'autre chemin pour redescendre au boulevard, à moins de prendre les escaliers de la Villa Larizo.
Alors reste à veiller, et si tu l'aperçois de nouveau, tu me pousseras vers la fenêtre. »
Geneviève dut promettre et demeurer les yeux fixés sur le lacet blanc qui courait, entre deux champs d'oliviers, le long du revers de la colline. Lorsque, fatiguée de l'attente vaine, elle les détourna pour recommencer la reprise patiente des bas de la famille, Maximin s'en aperçut.
« Tu ne fais plus attention. Elle passera sans que tu le saches, et moi je ne la verrai pas. »
Ce regret plaintif toucha Geneviève. Elle reprit son poste d'observation. Après une heure écoulée, elle vit une ombre couper la régularité du sentier désert. Au tournant, l'ombre prit une forme distincte sur laquelle se drapaient des vêtements blancs.
« La voici » cria-t-elle.
Et rapidement, elle roula vers la fenêtre à la chaise de Maximin et, soulevant l'enfant dans ses bras, le maintint à l'appui de la croisée. La tête, soutenue par l'épaule de sa sœur, un bras autour de son cou, il se pencha pour regarder. La femme aux cheveux d'or rouge descendait le chemin. Sa robe battait le sol. On entendait, à chacun de ses pas, rouler derrière elle les cailloux du sentier que ses talons détachaient. Sous le parasol ouvert, on ne voyait plus ses traits. Arrivée près de l'église, en face de l'ombre de la rue, elle le ferma. Mais elle portait un de ses grands chapeaux évasés, au fond desquels le visage se dissimule. Maximin poussa une exclamation de désappointement.
L'entendit-elle ?
ou plutôt fût-ce l'intensité magnétique du désir de l'enfant. Elle leva les yeux vers les croisées de la maison d'en face. Dans un rapide coup d'œil, Geneviève et son frère aperçurent les traits de la comtesse Lise, que le mouvement de la course avait teinté d'une couleur rose. Elle aussi vit ses deux têtes brunes, qui la contemplaient avec avidité. La beauté sérieuse de la sœur, le visage maladif du petit garçon, son pauvre corps infirme. Les traits de Madame de Crussol perdirent leur expression railleuse. Une tristesse les assombrit. Elle baissa la tête et, pressant le pas, descendit la vieille rue, s'en allant vers le bruit qui montait. Aussi longtemps que Geneviève eut la force de le soutenir, Maximin suivit des yeux le chemin par lequel venait de disparaître l'apparition blanche. Puis la jeune fille l'étendit sur sa couchette. Il se laissa faire en silence, l'œil rêveur, les lèvres serrées, comme par une préoccupation absorbante. « Eh bien, es-tu content maintenant ?» demanda la sœur. « Tu l'as bien vue, il me semble. La trouves-tu jolie ?»«
Bien jolie, même plus jolie que toi, » dit l'enfant en hésitant.
Geneviève se mit à rire. « On dirait que cela te contrarie. »«
Oui, » murmura-t-il, toujours avec cette même absorption dans le regard. « Jusqu'à présent, je n'avais jamais vu personne d'aussi jolie que toi. »
Dis, Geneviève, ce sont peut-être ses vêtements. Si tu étais habillée comme elle, avec une toilette blanche et des plumes sur ton chapeau, vous vous ressembleriez, ne crois-tu pas ?
Toutes les plumes du monde ne nous rendraient pas semblables. Ne le comprends-tu pas, petit ? Je n'ai pas ses cheveux.
Oui, mais pourtant, qui sait, si tu ôtais cette chose noire, si triste ?
Et il touchait de la main le bras de sa sœur, où l'étoffe usée avait la teinte roussâtre des vêtements trop longtemps portés. Geneviève, elle aussi, contempla ces signes de pauvreté. Pour la première fois, à cause du petit, elle regretta la laideur de sa robe. Dès lors, entre eux, la jolie dame inconnue devint un sujet préféré de causerie. Qui était-elle ? La verrait-il passer de nouveau ? Et ils prirent l'habitude de la guetter. À une certaine heure, Geneviève relevait les stores et plongeait le regard jusqu'au bas de la montée. Celle qu'ils attendaient revint quelquefois, à intervalles inégaux, mais toujours à peu près au même moment. L'espérance de la voir suffisait pour intéresser les journées de Maximin. Il l'examinait avec une curiosité passionnée, observait chacun des détails de ses vêtements, satisfaisant ainsi ses besoins d'enthousiasme. La vue de cette créature, élégante, raffinée, développait chez lui des instincts délicats, le goût du beau, inhérent aux imaginations ardentes, logées dans des corps difformes. Les aventureuses princesses, les séduisantes héroïnes de ses lectures d'enfants, revêtirent toutes désormais le même visage de rousse pâle. Il la connaissait bien maintenant, car chaque fois que la comtesse passait sous la maison noire, elle levait la tête, et ses yeux rencontraient ceux du petit malade, et plus loin, dans l'ombre, le regard sérieux de la sœur. Où pouvait-elle bien aller ainsi, toute seule ? Par ce sentier désert. Cette inexplicable promenade, qui avait pour Maximin l'attrait du mystère, préoccupait également Geneviève. Trop ignorante des hasards où le désœuvrement jette les femmes pour soupçonner les équipées de Madame de Crussol, elle se perdait en mille conjectures, dont aucune n'approchait de la réalité. Sa vie terne de petite provinciale l'avait préservée de toute expérience précoce. Ses instincts endormis encore ne lui laissaient rien deviner. Privée du contact d'autres jeunes filles, elle n'avait reçu aucune de ces confidences qui éclairent et corrompent. Jamais elle n'entendait chez son père de ces conversations d'homme à homme qui entr'ouvrent des horizons. Nul ne venait mettre un peu de mouvement dans leur existence morne. Le docteur Maoul était sorti de sa classe,
sans parvenir à entrer dans la sphère qu'il convoitait. Il vivait aux confins de deux mondes, ayant renié l'un par ambition, se voyant repoussé de l'autre. Ses enfants portaient le fardeau d'isolement de ceux qui n'appartiennent à rien et à personne. Sauf quelques visites à Colobrières aux parents de sa mère et de rares propos échangés avec ses voisines de maison, Geneviève ne parlait jamais, n'avait de rapport avec qui que ce soit. Le curé de l'église d'en face venait bien de temps en temps apporter un livre à Maximin. Le cousin Randos, le riche négociant en vin de la rue Nationale, envoyait régulièrement, aux quatre fêtes de l'année, un panier de frontignans. Ces jours-là, l'escalier craquait sous son pas robuste. Son rire éclatant d'homme prospère ébranlait les murs de la vieille maison. Mais ces bruits de vie s'éteignaient vite, et l'existence recommençait, solitaire et monotone, dans cette demeure silencieuse. L'habitude de passer sa journée près de la fenêtre, inhérente aux petites villes du Midi, était l'unique distraction de Geneviève et de Maximin. Jamais presque il ne descendait sur le boulevard. Par un reste d'orgueil, le père l'avait défendu. L'apparition de la comtesse Lise rompit l'uniformité de leur perspective des choses extérieures et apporta un aliment à leur curiosité latente. Mais, chez eux, cette curiosité se satisfaisait d'hypothèses vagues, de suppositions romanesques. Jamais ils ne cherchaient de moyens plus pratiques d'information. Ce fut le hasard qui les servit. Un jour que Geneviève, guettant le retour de l'inconnu, regardait les têtes grises des oliviers s'aligner sur la colline sablonneuse, elle vit deux silhouettes, au lieu d'une, descendre les degrés de pierre. Maximin dormait dans la chambre voisine. Son absence lui causa un bizarre soulagement. Elle était ainsi plus à l'aise pour voir et observer. Un homme marchait à côté de la femme rousse. Il lui parlait près de l'oreille, très vite, semblait-il, avec des gestes suppliants et pourtant avec une attitude familière. Elle, maussade, s'arrêtait de temps à autre dans sa marche et haussait les épaules. On aurait dit alors qu'il insistait davantage. Ce jour-là, en passant sous la maison de l'angle, Madame de Crussol ne leva pas la tête. Cependant, Geneviève put voir son visage méchant, sa bouche relevée par un sourire cruel. Elle aperçut aussi les yeux bleus de son compagnon, qui faisaient une tache claire sur sa peau brune. D'un coup d'œil, elle saisit son allure insolente, son sourire plein de choses. C'était la première fois qu'elle voyait un homme du monde. Il y avait un je ne sais quoi dans cette désinvolture élégante qui la fascinait comme une révélation. Elle les regarda descendre la rue, mais aujourd'hui ce n'était pas la femme que son attention suivait. À un moment donné, tous deux s'arrêtèrent. Geneviève vit une poignée de main furtive, puis l'inconnu ramassa ses jupes et s'éloigna d'un pas rapide, tenant le milieu de la chaussée. L'homme, au contraire, glissa contre les maisons, s'arrêtant devant chaque boutique. Lorsque la robe de Madame de Crussol eut tourné le coin de la place, alors seulement il descendit et s'enfonça à son tour dans la ville basse. Ils avaient disparu tous deux depuis longtemps que Geneviève restait encore à sa fenêtre, avec une curiosité inassouvie dans le regard. Puisqu'ils suivaient le même chemin, pourquoi se séparer ainsi? Ne trouvant pas de réponse à sa question, elle songea à se demander quelle était l'intimité qui réunissait ces deux êtres. Son instinct l'avertissait que le compagnon d'aujourd'hui n'était ni un mari ni un frère. Elle voyait passer le dimanche les honnêtes couples de la ville et savait que ce n'était point là une attitude conjugale. Serait-ce un indifférent rencontré par hasard? Mais alors, on ne se parle pas ainsi, oreille contre oreille. Elle était assez intelligente pour le comprendre. Entre cet homme et cette femme, il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait définir, qui était au-delà de son entendement. Malgré les efforts de sa pensée, elle voyait toujours la solution lui échapper. La jeune fille, en général, communiquait toutes ses idées à Maximin. Le petit garçon, très précoce, l'aidait efficacement dans ses voyages de découvertes intellectuelles. Mais cette fois, elle garda le silence sur sa préoccupation. Elle ne lui raconta même pas ce qu'elle avait vu. Seulement, pour elle, depuis lors, un intérêt plus passionné s'attacha à la personnalité de la femme entrevue. Geneviève se demandait sans cesse avec un trouble singulier « Où va-t-elle ainsi par ce sentier désert ?» Une envie bizarre lui venait de la suivre, de savoir, d'apprendre. Elle rougissait en y pensant. Et lorsque Maximin disait d'un ton plaintif « La jolie dame vient bien rarement maintenant », la jeune fille soupirait, comme si cette disparition attristait son cœur, lui fermait un horizon entrevu. Elle avait perdu sa placidité d'autrefois. L'inconscience parfaite qui la rendait sereine se dissipait sous le souffle d'une curiosité nouvelle. Elle pressentait des choses ignorées qui la faisaient craindre, trembler, palpiter. Maintenant, souvent à ses heures de liberté, Geneviève montait dans les mansardes de la maison. Là, embrassant d'un œil ardent les perspectives infinies de la mer, il lui semblait que des voiles se soulevaient, qu'elle apercevait confusément des terres lumineuses. Ses yeux se perdaient dans un lointain de verdures humides, d'où surgissaient deux ombres, aux mains enlacées. Elle voyait des cheveux d'or rouge, puis un visage d'homme brun, avec des yeux pâles. Et elle tombait dans de longues rêveries, qui la laissaient découragée, hélas, avec la sensation troublante, quoique vague et indéfinie encore, des choses qui lui manquaient. Chapitre 6. La journée avait été chaude. Dans la vieille rue, au bord des balcons de fer forgé, les plantes pendaient languissantes et desséchées. Assise près de la fenêtre, Geneviève, qui raccommodait le linge de la maison pour le repassage du lendemain, relevait de temps à autre un œil de pitié sur les feuilles, blanches de poussière, de son pot de basilic, sur les pétales ridés de sa giroflée. Elle était seule dans sa petite chambre de jeune fille, voisine de la salle à manger. À travers la porte entr'ouverte, elle entendait la respiration régulière de Maximin qui dormait. Sa main active courait sur le linge blanc. L'un après l'autre, elle pliait soigneusement chaque objet reprisé, puis recommençait sa besogne, chaque fois un peu plus pâle, hélas. Elle cousait ainsi depuis le matin dans la chaleur du jour. Enfin, le dernier point fut achevé et la pile de linge déposée. Mais avant de songer à se reposer elle-même, Geneviève se dirigea vers le fond de la chambre et, avec un mouvement d'une grâce robuste, soulevant la lourde cruche à eau, vint arroser les plantes de la fenêtre. Ses manches retroussées laissaient voir ses bras pleins, le grain fin et serré de sa peau dorée. Elle coupa les feuilles flétries, remua de l'ongle la terre humide. Sous ses ciseaux, quelques fleurs de giroflée se détachèrent. Alors, les pressant dans ses doigts pour en mieux exprimer l'odeur forte, elle les respira avidement. L'atmosphère lourde et le travail continu avaient fatigué sa tête. Elle l'appuya contre le montant de la croisée et resta là quelque temps, les yeux fermés. Tout à coup, la brise de mer s'éleva et vint lui souffler au visage, lui donner un désir soudain de grand air, de verdure, d'horizon large. Rapidement, elle rabaissa ses manches, rafraîchit son front, ses mains. Puis, ouvrant une armoire de noyer qui occupait toute une des parois de la chambre étroite, en tira un chapeau de paille noire, modestement garni, une petite écharpe de cachemire avec une frange nouée. Toque et fichu furent attachés sans aucune coquetterie. Ensuite, bien doucement, sur la pointe du pied, elle entra dans la salle à manger, regarda l'enfant endormi, chassa une mouche qui l'inquiétait, mit à sa portée une petite sonnette. Après quoi, fermant la porte, elle s'éloigna avec mille précautions afin de ne pas l'éveiller.
« Ce serait dommage de troubler son sommeil, » murmura-t-elle.
« D'ailleurs, il est trop tard pour le faire sortir. » Sur le palier, elle appela la jeune servante. « Vincente, » dit-elle, « je vais à la bénédiction et ensuite au cimetière. Soyez bien attentive aux appels de Maximin, et si le souper ne risque pas de brûler, allez vous asseoir dans ma chambre. » Elle ne partit qu'après avoir reçu une promesse formelle. On pouvait espérer que Vincente n'y manquerait pas, car toutes les négligences étaient permises chez le docteur, sauf celles qui pouvaient faire souffrir l'enfant. Geneviève descendit la rue de sa démarche un peu lente, mais elle hâta le pas en entendant sonner l'heure. Cependant, elle arriva trop tard. Sur la place de la Rade, les fidèles sortaient déjà, et lorsqu'elle entra à Saint-Louis, l'église était vide. La bénédiction venait d'être donnée, et l'odeur tiède, laissée par la foule, se mélangeait au parfum de l'encens dans la petite église bâtie en contrebas de la place. C'était une construction romane, obscure et basse, fouillée de sculptures sombres et noires du XIe siècle. À gauche de l'entrée, trois chapelles, prises dans l'épaisseur du mur. À droite, une rangée de confessionnaux, et à leur suite, la porte battante de la sacristie. Geneviève, après s'être agenouillée un instant, se releva avec un signe de croix rapide, et, se dirigeant vers cette porte, pénétra dans l'intérieur, inoccupée à ce moment du jour. Elle ne s'y arrêta pas et ressortit par une autre ouverture qui donnait accès dans la campagne. Quelques degrés de pierre usée conduisaient à une vieille terrasse envahie par les acanthes et les pervenches sauvages et entourée de pans de murs soutenant des terrains plantés d'oliviers. La jeune fille fit un bouquet qu'elle noua avec un brin d'herbe, puis elle gravit encore les marches croulantes d'un vieil escalier de bois montant jusqu'à mi-coteau. L'endroit était désert. Le soleil, à son déclin, n'y envoyait plus que des rayons furtifs, qui, s'arrêtant sur les cimes des chênes verts et des pins maritimes, y jetaient une poussière lumineuse. À un tournant, et sur une pente s'abaissant vers la partie opposée à celle que Geneviève venait de gravir, apparaissait un carré de murs grisâtres, au milieu duquel des croix, debout, mettaient leurs découpures blanches. C'était le cimetière. Quand la jeune fille accompagnait Maximin et sa chaise roulante, elle faisait le grand tour et entrait par la grille qui donne sur la route carrossable. Mais le chemin de l'église était plus rapide, et en ouvrant une petite porte enfoncée dans le mur, on se trouvait tout de suite dans l'enclos funèbre. De ce côté, les allées se perdaient sous l'envahissement des herbes. Des renflements de terrain bossuaient le sol dans les espaces qu'aucun monument ne marquait. De vieilles dalles enterrées, mangées de mousse, dénotaient l'oubli des survivants. C'était la partie la plus ancienne du cimetière. Geneviève la dépassa et arriva près des tombes fleuries des morts récents. Elle s'agenouilla devant un carré de pierre blanche que surmontait un haut rosier dont les tiges s'élargissaient en grands bouquets de feuillage au-dessus de la croix. C'était le tombeau de sa mère. Dans cet espace étroit, la pauvre femme se reposait de ses espoirs déçus. La jeune fille baisa respectueusement le marbre et déposa les pervenches cueillies en route. Puis, ce pieux devoir accompli, elle monta vers le haut du cimetière, d'où la vue s'étend jusqu'aux vastes horizons bleus de la mer. Là, les mouvements sont plus somptueux, les emplacements plus larges. C'est le terrain des privilégiés. Geneviève s'appuyait des épaules à une des colonnes brisées, symbole de ceux qui meurent trop tôt. Son jeune corps se détachait comme une fine statuette noire contre le marbre qui lui servait de soutien. Elle regarda autour d'elle. La tristesse du couchant était déjà tombée sur les choses. Les fleurs se décoloraient, les pâles asphodèles se balançaient mélancoliquement sur leurs tiges, L'ombre des tamaris et des cyprès se faisait plus obscure. Les grandes anémones rouges avaient pris une teinte terne de grenat sombre. La lumière du monde n'était plus sur le ciel qu'un mince filet d'or jaune. La jeune fille ferma les yeux et respira largement l'amertume saine du grand air. Elle se croyait seule. Aussi tressaillit-elle en entendant une mince voix d'enfant qui disait « Non, maman, pas encore. Je voudrais d'abord aller jusque là-haut. » À quoi une voix de femme répondit « C'est impossible, tu aurais froid, il faut rentrer. »« Oh, maman, je t'en prie, je me couvrirai bien. Vois-tu comme cela avec cet énorme châle ?» La mère céda. « Jean, dit-elle, poussez la chaise de monsieur Lucien. » Au tournant du sentier, Geneviève vit apparaître un grand valet de pied qui roulait un fauteuil, sur lequel un petit garçon pâle était étendu. Derrière lui marchait une femme que masquait à moitié la lourde carrure du laquais. Il lui sembla reconnaître ce froufrou de jupe, ce balancement des hanches. L'enfant appela sa mère. Celle-ci s'avança et montra à la jeune fille le visage de l'inconnu qu'il avait tant occupé. En se trouvant ainsi, inopinément face à face, toutes deux tressaillirent de surprise. Elles se reconnaissaient. Une expression d'intérêt ardent anima le visage de Geneviève. Madame de Crussol eut un petit sourire. Elle examinait avec curiosité cette belle fille, pauvrement vêtue, autour de laquelle montait l'odeur des jasmins, et qui, inconsciente de sa pose plastique, restait appuyée au monument funèbre, déroulant au regard les lignes de son corps parfait. Lorsque la chaise de Lucien fut arrivée au niveau de Geneviève, celle-ci changea d'attitude et se pencha vers le petit malade avec des yeux remplis d'une pitié tendre. Cette comparaison irrita Madame de Crussol. Elle ne voulait pas qu'on plaignît Lucien, qu'on s'aperçût de son infirmité. Elle supportait Libine parce que Serge, qui l'avait deviné, ne lui parlait jamais de son fils. Elle lança à la jeune fille imprudente un regard hautain. Ses yeux verts eurent une lueur noire. Puis elle se souvint de l'enfant entrevu à la fenêtre. Elle revit en pensée le grand front blanc, les épaules qu'on devait soutenir. Là aussi, il y avait un malheur semblable au sien. Et à cela seul qui souffrait de la même infortune, elle reconnaissait le droit de la plaindre. Son expression s'adoucit. Un caprice soudain lui donnait le désir de parler à Geneviève. Elle fit de la tête un signe léger, auquel la jeune fille répondit par une inclinaison grave. La colonne, contre laquelle celle-ci était adossée, avait à la base une plante de jasmin étoilée de fleurs suaves. Lucien les aperçut, et avec l'insistance d'un enfant gâté, les demanda impérieusement. La comtesse Lise, croyant que la tombe appartenait à la famille de celle qui en occupait l'espace, répondit à son fils « Non, je ne puis pas t'en donner, il faudrait demander la permission à mademoiselle. » Geneviève, trop timide pour expliquer qu'elle n'avait sur ce terrain aucun droit spécial, se baissa et cueillit une touffe odorante qu'elle remit à l'enfant. Il la prit en silence, regardant avec étonnement celle qui la lui donnait. Enveloppée de châle jusqu'au menton, on ne voyait de lui que ses yeux ternes dans sa petite face souffreteuse. « Tu oublies de remercier mademoiselle ?» dit Madame de Crussol. Il murmura quelques mots inintelligibles que la mère se chargea d'expliquer. Geneviève les écouta, rougissante, puis la chaise recommença à rouler, grinçant des roues sur le gravier de l'avenue. La comtesse suivait lentement. Tout en bas, sur la route, devant la grande grille, un équipage attendait. Le groupe n'était pas arrivé au tournant du sentier qu'il s'arrêta. Le domestique donnait des explications. Il montrait le fauteuil, tout en cherchant autour de lui. La jeune fille comprit que quelque chose s'était gâté dans le mécanisme. Elle aussi regarda le sol et aperçut sur le sable de l'allée une grosse vis ronde. Évidemment, c'était cela qu'on cherchait. Elle la ramassa et, se mettant à courir, rejoignit Madame de Crussol. Celle-ci était consternée. La chaise ne voulait plus avancer. On la croyait cassée. Il ne restait qu'un moyen, porter l'enfant jusqu'à la voiture. Mais elle hésitait à le remettre au bras d'un domestique, inexpérimenté à ce genre de besogne. Celui-ci, d'ailleurs, était un valet de pied nouveau dans la maison. Geneviève arriva au milieu de cette incertitude.
« Voici, madame, ce que vous avez perdu, » dit-elle. « C'est la vis de la roue, il n'y a qu'à la remettre. »
Puis elle s'éloigna pour ne pas avoir l'air indiscret. Mais elle fut promptement rappelée par un « Je vous en prie, mademoiselle, revenez !» Personne ne savait revisser le clou. Geneviève, habituée à réparer les avaries du fauteuil de Maximin, comprit immédiatement ce qu'il fallait faire. Elle donna au domestique les indications voulues et l'aida de ses propres mains. En quelques instants, la chaise put rouler de nouveau. La mère la remercia avec chaleur. Comment connaissait-elle tout cela? Qui le lui avait appris? Elle l'interrogeait par petites phrases impérieuses auxquelles la jeune fille répondait simplement. Trop timide pour oser rompre l'entretien, elle marchait à côté de Madame de Crussol, suivant le fauteuil de Lucien. Pressée de questions, elle raconta la maladie de son frère, laissant ingénument deviner leur vie. La comtesse fut très surprise d'apprendre qu'elle était la fille d'un médecin. L'apparence si pauvre ne l'avait pas préparée à cette profession lucrative. Elle pensa à son Esculape de Paris, dont l'hôtel était deux fois plus vaste que le sien. Puis ramena les yeux sur la petite robe étriquée qui faisait si chétive figure à côté des draperies flottantes de son costume à elle, sortant de chez le premier faiseur. Elle conclut de cet examen que le père de Geneviève devait être un piètre savant. Cependant, cette médiocrité d'existence l'intéressait, comme quelque chose de nouveau. Depuis qu'elle savait ne pas avoir affaire à une petite ouvrière, sa curiosité se familiarisait. Elle continua ses questions, demandant des détails sur l'enfant malade, sur la manière dont on le soignait. Geneviève parla d'une amélioration introduite par son père dans le petit fauteuil où l'on roulait Maximin. Elle essaya d'expliquer, mais son interlocutrice ne saisissait pas. « N'importe quel ouvrier vous ferait cela, » disait la jeune fille. « Il suffirait de savoir le lui enseigner. »«
Oui, » répondit Madame de Crussol.
« La bonne anglaise comprendrait immédiatement. » « Mais moi, je suis si maladroite en ces sortes de choses. Et vous dites que l'enfant est mieux couché ?»«
Beaucoup mieux. Le dos lui fait moins mal. » »«
Je crains d'être indiscrète, » dit très poliment la comtesse. « Mais c'est pour soulager mon petit garçon. Pourrais-je vous prier, mademoiselle, d'enseigner cela à Hartfield ? C'est une fille très intelligente. Si vous me donniez votre adresse, je l'enverrai chez vous. » Geneviève rougit. Une honte nouvelle lui était venue. L'idée de montrer la misère de son logis aux gens de cette femme, qui lui parlait comme à une égale, froissait sa fierté. Puis, que dirait son père de l'introduction de cette étrangère dans la maison? Le docteur avait toute la sauvagerie ombrageuse des vaincus de la vie. Elle craignait de le contrarier. Madame de Crussol vit son embarras. Sans en comprendre nettement la cause, elle devina que la jeune fille craignait toute intrusion dans sa demeure. Immédiatement, elle changea son plan. Cette difficulté à vaincre irritait son désir.
« Mais il y a mieux à faire, » dit-elle de sa voix des jours où elle voulait ensorceler. « Pourquoi ne viendriez-vous pas me voir? Vous expliquerez devant moi la chose à Hartfield. » « J'habite sur le boulevard, numéro 5. Demandez Madame de Crussol. Vous feriez une bonne action au profit de mon petit malade, et le bon Dieu en récompenserait le vôtre. »
Geneviève hésitait, intimidée.
« Dites que vous viendrez, »
continua la comtesse Lise. Quelle heure préférez-vous? Le matin ou après le déjeuner? Je ne sors jamais avant 3 heures. La jeune fille se souvint des promenades mystérieuses. Elle revit tout à coup devant elle l'homme brun et pâle. Une répugnance instinctive arrêtait son consentement. Mais elle pensa au plaisir que cette visite ferait à Maximin, aux innombrables choses qu'elle aurait à lui raconter. « Si vous le permettez, dit-elle, je viendrai un jour, avant 3 heures. » Les deux femmes étaient arrivées devant la grille. L'enfant avait été étendu sur les coussins du fond. La chaise pliée occupait le devant de la voiture. Madame de Crussol monta à son tour. « Au revoir » cria-t-elle à la jeune fille. Les chevaux partirent, emportant dans un éblouissement de poussière la mère et l'enfant. Geneviève les suivit des yeux quelques secondes, puis se retourna vers l'avenue qui montait. Tout maintenant dans le champ des morts paraissait plus triste. Sous la pâleur du crépuscule, le marbre des tombes prenait des lividités de cadavres. Un frisson courait à travers les cyprès et les ifs. On entendait dans les massifs un chuchotement infini de feuilles, des battements d'ailes. Du fond des verdures, le cimetière tout entier semblait appeler la jeune fille de sa grande voix mystérieuse. Saisie d'une angoisse indéfinissable, elle prêta l'oreille à ces murmures, qui contenaient peut-être un avertissement ou une menace. Mais ce fut en vain qu'elle écouta. La brise garda son secret. Chapitre 7. C'est comme je vous le dis, affirmait la comtesse Lise. Vous la verrez d'ailleurs, une vraie merveille. Le visage de mignon sur un corps robuste de nymphe épanoui. Tout cela emprisonné dans une méchante robe plate. Habillée avec art, cette fille-là serait exquise. Mais que vous prend-il, Lizzie ? Interrompit son mari. C'est la première fois que je surprends chez vous pareil enthousiasme. En général, vous n'êtes guère fanatique de votre sexe. « Ah, certes non. Mais que voulez-vous? Je m'ennuie tant. » Libine, qui fumait béatement sa cigarette au bord d'un divan turc, lança à la dérobée un regard de reproche à Madame de Crussol. « Et où verrons-nous ce phénomène ? » demanda-t-il. « Ici même, elle doit m'apporter un renseignement. » La comtesse se garda bien de dire de quel genre il était. Elle continua. « Je suis même sûre que ce sera aujourd'hui. Mes pressentiments ne me trompent jamais. Voici d'ailleurs plusieurs jours que je l'attends. »« Voulez-vous mon avis, cher ami ?» reprit Monsieur de Crussol. « La jeune fille ne viendra pas. Naturellement, vous l'aurez intimidée. Sans compter qu'elle a un père, lequel, s'il a du sens commun, ne la laissera pas courir, au hasard, chez des étrangers qu'elle rencontre à la promenade. » « Mais je lui ai dit qui j'étais, » répliqua la comtesse Lise en rapprochant ses sourcils. Même dans les petites choses, elle ne supportait pas d'être contrariée. « Vous parlez ainsi, » continua-t-elle, « parce qu'elle tarde à venir. Rien n'est plus naturel. Il a plu toute la semaine. La pauvre fille ne pouvait arriver à travers ce déluge. » Le sujet de conversation changea. Les deux hommes causèrent ensemble. La comtesse se perdit dans la contemplation de ses ongles roses. Elle était maussade. Elle aurait voulu que son mari sortît, la laissât seule avec Libine. Non pour s'entendre dire des tendresses ou pour en murmurer elle-même, mais par besoin de lutte, goût de bravade, pour le plaisir de se mesurer avec une force de perversité supérieure à la sienne. Elle éprouvait une volupté âpre, à se maintenir à la hauteur de la ruse de Serge, à ne lui céder en rien. Quand elle parvenait à l'exaspérer, à le renvoyer irrité, frémissant, elle ressentait une jouissance très vive. Entre ces deux êtres, il n'y avait pas un atome d'amour. Désir et habitude de galanterie de la part de l'homme, chez la femme, ennui, curiosité, instinct d'intrigue. Libine était à la mode. Lorsqu'à Paris l'on demandait « Où est Serge ?» et qu'on répondait « ailleurs ou à Cannes, à la suite de Madame X. Cela posait la femme pour laquelle il s'excitait ainsi. C'est pourquoi, en le voyant arriver dans le midi, quelques jours après elle, sous le prétexte d'un reste de bronchite à soigner, Madame de Crussol l'avait accueilli avec un sourire rempli de promesses, qu'elle était cependant bien décidée à ne pas tenir. Il allait lui aider à passer ses mois d'hiver. C'était une ressource qu'il ne fallait pas négliger. Mais céder serait banal, un peu écœurant même, après tant d'autres. Quand elle lui signifiait honnêtement son congé, au premier mot trop vif, elle aurait trouvé cela d'une pruderie vulgaire. Ces moyens-là n'étaient qu'à l'usage des peureuses et des faibles qui craignent les entraînements. Elle, Lizzie, était d'une trempe plus ferme. Elle avait le pied assuré et ne souffrait pas du vertige. D'ailleurs, les ravins ne l'épouvantaient plus. Elle se promenait avec Libine dans le jardin solitaire, sur les sentiers mangés de mousse, sous le jour verdâtre qui tombait des branches, et n'éprouvait aucun trouble. Mais elle simulait avec art, travaillant à exciter chez lui quelque chose qui fût sincère. Quand elle avait réussi, elle le blessait dans sa vanité, puis le calmait d'un regard provoquant de ses yeux moqueurs, ranimant l'espérance par une phrase qui semblait engager l'avenir. Jusqu'à présent, dans la lutte, il avait eu le dessous, toujours. Son goût pour Madame de Crussol était très vif. Elle savait l'animer de désir, l'ensorceler par son charme irritant. Et cette émotion qu'il subissait diminuait la puissance de sa volonté, le rendait moins adroit, moins habile dans son rôle de séducteur. Sauf en de rapides échappées, il était resté doux, insinuant, très inférieur en somme à sa renommée. L'animal félin et dangereux n'avait pas paru encore. C'était une déception pour la comtesse Lise. Elle avait attendu autre chose. Cette uniformité la lassait, la désappointait. Elle pensait à cela aujourd'hui en regardant Libine, et l'expression de son visage ne présageait rien de bon pour lui. S'il y avait un tigre sous cette surface lisse, sous ce sourire suave, elle était décidée à l'éveiller et à le combattre. Cependant, entre les deux hommes, la conversation commençait à languir. Albert de Crussol s'ennuyait. Il voulait aller au cercle lire ses journaux, chercher un partenaire d'écarté. La séance lui paraissait longue. Il attendait pour partir que sa femme le déchargea du soin d'entretenir leur visiteur. Celle-ci, animée du même désir, mais rendue obtuse par son irritation, ne voyait pas la possibilité de faire ce qui, en un autre moment, lui aurait paru si aisé. Elle restait immobile dans son fauteuil, battant le sol de son pied nerveux. Le Russe souriait toujours et jurait tout bas. C'était l'un de ces moments pénibles, vraies plaies de la vie mondaine, où personne n'ose se lever et où chacun enrage. Un domestique qui entrait rompit le charme d'ennui qui les retenait captifs tous trois. Il venait avertir Madame de Crussol qu'une jeune personne la demandait. « C'est elle, certainement !» s'écria Lizzie, oubliant du coup sa maussaderie. « Restez, Albert, je veux que vous la voyiez !» « Et vous aussi, Libine !» Ils obéirent et s'effacèrent dans un coin de la pièce. Geneviève entra. Un peu gauche et hésitante dans sa démarche, elle répondit cependant avec une dignité modeste aux paroles de bienvenue de la comtesse. Celle-ci la fit asseoir, lui demanda pourquoi elle n'était pas venue plus tôt. La jeune fille s'excusa. Son frère avait été malade, puis la pluie l'avait retenue. Maintenant, elle apportait les indications, même l'adresse du fabricant qui avait arrangé la chaise. Elle parlait de sa voix sonore, bien timbrée, qu'au début la timidité avait assourdie. Madame de Crussol l'arrêta, elle ne voulait pas que son mari entendît. « Venez avec moi chez l'enfant, vous expliquerez cela à Hartfield. » Pour sortir, elles passèrent devant les deux hommes. La comtesse les désigna du geste à la jeune fille. « Mon mari, Notre ami, monsieur de Libine. » Ils s'inclinèrent en l'examinant bien en face. Geneviève d'abord n'aperçut que monsieur de Crussol. Il lui parut bon et digne de confiance. Puis ses yeux se relevèrent sur Serge. Elle reconnut immédiatement le compagnon de la comtesse, et sous ce regard d'un bleu pâle, persistant et familier, une impression de malaise la fit tressaillir. Elle se sentait pressée d'échapper à cette inspection insolente, à ces hommes qui la détaillaient. Une fois hors du salon, elle respira plus librement, comme délivrée d'une crainte. Madame de Crussol la conduisit chez Lucien. Elle vit la grande chambre claire, la bonne attentive et respectueuse, qui écoutait ses explications d'un air entendu et empressé, qui entourait l'enfant de soins intelligents. Son cœur se serra en pensant à Vincente. D'un œil ardemment intéressé, elle examinait chacun des objets appartenant au petit garçon, ceux qui devaient le soulager et les autres destinés à l'amuser. Elle voulait tout voir pour raconter à Maximin. Elle éprouvait une sorte d'angoisse à l'idée que quelques-uns des détails lui échapperaient. Cette préoccupation se lisait sur sa physionomie mobile. Devant de certains jouets, ses yeux eurent un sourire d'enfant ravi. Elle les touchait avec une admiration craintive qui divertissait Madame de Crussol et qui surprenait Lucien. Il regardait la jeune fille avec des yeux ébahis. C'était pourtant une grande personne. Quel étrange plaisir prenait-elle à ce qui, lui, petit garçon, ne l'amusait même plus. La mère devina son étonnement et dit « Mademoiselle Geneviève a un petit frère, à peu près de ton âge. Il est malade comme toi. Elle pense à lui en regardant tes jouets. Tu devrais la prier d'en emporter quelques-uns. Elle les lui donnerait de ta part. » « Qu'elle les prenne tous !» dit l'enfant avec un dédain immense de ses richesses. Il ne comprenait pas qu'on y attachât quelque valeur. Mais Geneviève ne crut pas devoir accepter. Sa timidité l'en empêchait. Peut-être aussi un sentiment de fierté pour Maximin. Elle ne voulait pas avoir l'air d'être venue quêter un cadeau pour lui. Cette réserve plut à Madame de Crussol. Décidément, la jeune fille l'intéressait. C'était un type nouveau. Elle résolut de l'exploiter pour cet après-midi d'ennui. Au lieu de la laisser partir, elle la ramena au salon. Lizzie avait entendu battre la porte d'entrée. Elle croyait son visiteur parti. À sa vive surprise, elle le trouva installé, l'attendant. « Quoi, vous êtes là ? » s'écria-t-elle. « Et seul ? Où est Albert ?» Il est sorti, il avait un rendez-vous au cercle. Je lui ai dit que je restais pour prendre congé de vous. Cela se trouve à merveille. Vous m'aiderez à entretenir Mademoiselle Geneviève. Nous allons bavarder autour d'une tasse de thé. » Et, résolue à séduire la jeune fille, elle lui fit mille chatteries, l'installa près d'elle, Libine en face, la table à thé au milieu. D'abord, elle l'interrogea gracieusement, puis, ne voulant pas l'effaroucher, parla d'elle-même, raconta des histoires qui firent rire Geneviève. Dans ses récits, il y avait beaucoup de choses que celle-ci ne comprenait pas, mais elle riait de plaisir. Tout cela était si nouveau pour elle. La chambre ensoleillée, les meubles soyeux, les taches brillantes des tableaux sur les tentures de soie. L'atmosphère tiède, parfumée, lui donnait une sensation de bien-être exquis. Le thé, qu'elle buvait pour la première fois, l'enivrait doucement. Le canapé était étroit. À chaque instant, les dentelles de Madame de Crussol frôlaient ses mains nues, et le contact de ses blancheurs odorantes lui causait un frisson délicieux. Le temps passait. Elle oubliait de partir. Une paresse l'engourdissait. Les yeux de Libine ne la gênaient plus. Elle s'habituait à ce regard impudent. Enfin, le souvenir de Maximin qui l'attendait la saisit comme un reproche. Vivement, elle se leva. On voulut la retenir. « Ne vous en allez pas, restez encore. Non, non, il faut que je parte tout de suite. » Et elle les quitta brusquement, comme une petite sauvage. Au bas de l'escalier, Serge la rejoignit, rapportant le parasol qu'elle avait oublié. En le lui rendant, il serra ses doigts entre les siens. Il y avait dans cette pression quelque chose d'insinuant et de familier, qui, de nouveau, donna à Geneviève une sensation de malaise et de peur. Elle s'éloigna avec un salut sec, tandis que Libine murmurait de sa voix traînante « Oui, vraiment une merveille !» La jeune fille l'entendit, mais elle était trop préoccupée d'être en retard pour scruter cette parole. Elle marchait rapidement, hâtant toujours le pas, n'ayant qu'une pensée, celle d'arriver. Maximin l'avait ressaisie tout entière. Enfin, essoufflée, haletante, elle gravit l'escalier sombre et tomba dans les bras de son frère. L'enfant l'accueillit avec un cri de joie profonde. Ses yeux étaient rouges, la longue attente l'avait énervée. « Tu as pleuré ?» s'écria Geneviève, remplie de remords. « Non, non, je ne sais pas, j'ai oublié, maintenant que tu es là. » Et avec un geste caressant, il resserrait l'étreinte de ses mains autour du cou de sa sœur. « Dis-moi ce que tu as vu !» Et Geneviève raconta. Maximin l'écoutait avec un intérêt fiévreux. Tout l'excitait dans ce récit. L'arrivée, la chambre de Lucien, la bonne anglaise, les jeux d'hiver, et c'était des questions sans fin pour qu'elle précisât davantage. Lorsqu'elle vit ses yeux briller de convoitise à la description des jouets, elle regretta la timidité et l'orgueil qui l'avaient empêchée d'accepter l'offre d'en emporter pour lui. Elle aurait voulu retourner en arrière, aller les redemander. « Et puis ?» interrogea Maximin. « Qu'as-tu fait ? Es-tu resté tout le temps dans la chambre du petit garçon ?»« Non, j'ai été au salon avec la dame. Nous avons pris du thé, des gâteaux. » De nouveau, elle dut décrire tous les détails de l'appartement et de la table. « Vous étiez seule ? » demanda-t-il encore. « Ou bien y avait-il quelqu'un avec vous ?»« Oui, un monsieur russe qui s'appelle Libine. »« Quel drôle de nom !» dit l'enfant. « Est-il jeune ? Te plaît-il ? Pourquoi rougis-tu, Geneviève ?» Elle se mit à rire, répondit qu'elle ne savait pas. Mais les souvenirs qu'elle évoquait la rendaient pensive. Elle revoyait la chambre chaude et brillante, le regard admiratif de Serge, les étoffes soyeuses qui habillaient Madame de Crussol. Elle avait rapporté dans ses yeux un éblouissement qui ne devait pas s'en effacer. Maximin continuait à l'interroger avec une persistance d'enfant. Il tenait les bras de Geneviève enlacés aux siens, et soufflait légèrement sur ses mains nues, soulevant le duvet de sa peau blonde. Tout à coup, il s'écria « Tu as rapporté dans tes vêtements une bonne odeur, une odeur que l'on n'a jamais chez nous, sur tes doigts aussi, sans toi-même. » Geneviève obéit. En effet, un parfum léger était resté attaché à son épiderme. Ce parfum l'énerva, lui donna une envie très douce de pleurer. Elle se détourna, ne voulant pas laisser voir ses larmes à Maximin. Mais il s'en aperçut. Ce fut une révélation soudaine. « Dis-moi, sœur, murmura-t-il tout bas, comme si une crainte mystérieuse l'agitait. Dis-moi, tout cela est très différent de chez nous. » Elle se baissa sans parler et l'embrassa avec une ferveur d'affection plus intense que de coutume. Alors il appuya sa pauvre petite joue creuse contre l'ovale si pur du visage de la jeune fille. « Oui, cela doit être différent, » poursuivit-il d'une voix rêveuse. « Mais tout de même, n'est-ce pas, tu m'aimeras toujours ?» Chapitre 8. Madame de Crussol avait le caractère fantasque et variable, et ses rapports avec Geneviève, malgré les protestations qu'elle lui avait faites, n'aurait point eu de lendemain si la mémoire du fils n'était venue réveiller la mère de son oubli. Le petit garçon, semblait-il, n'avait prêté qu'une attention distraite et maussade à la mention de l'existence d'un autre enfant malade comme lui. Mais le fait était resté cependant gravé dans son esprit, et il se précisa, durant les longues heures de solitude et de silence auquel le condamnait son infirmité. Il connaissait par cœur les histoires de sa bonne et ne voulait point d'amis. On lui avait amené un jour un compagnon de son âge, le fils de Marguerite de Santenac, l'ami de sa mère. Cette visite avait été suivie d'une crise de larmes. Ce gamin qui pouvait courir et grimper, qu'il avait assourdi du récit de ses prouesses, il le détestait. Il lui ferait du mal si on le ramenait de nouveau. On dut promettre que Roger ne reviendrait pas. Mais sans camarade, l'existence est triste. Lucien s'ennuyait cruellement. Un jour, tandis qu'il regardait avec amertume des enfants droits et alertes cheminer en bande joyeuse sur le boulevard ensoleillé, il songea tout à coup à ce petit malade dont on lui avait parlé, qui ne possédait pas de jouets et qui habitait une rue noire. Son intérêt s'éveilla. Il interrogea l'anglaise, mais Hartfield ne put le satisfaire. Il attendit le lendemain avec impatience pour questionner sa mère. Celle-ci raconta ce qu'elle savait. Sur ce récit, son imagination travailla, et il lui vint une envie forte de voir ce garçon qui ne pouvait marcher. « Maman, dit-il le lendemain, je sais ce que je désire aujourd'hui, mais promets d'abord de me l'accorder. »«
Tout ce que tu voudras, chérie. » »«
Eh bien, il faut aller chercher le frère malade de Mademoiselle Geneviève. » »«
Cela te ferait plaisir ?»
« Oui, mais je le veux tout de suite. »«
Tu l'auras, » répondit-elle, comme s'il se fût agi d'un objet à acheter.
Le jour même, chez le docteur, Vincent poussa la porte du pied en criant à Geneviève de sa voix éraillée « Il y a une lettre pour vous !»«
Qui l'a apportée ?» demanda avec intérêt Maximin.
« Est-ce le facteur ?»
Une lettre chez eux était une occurrence rare.
« Non, un homme en uniforme, avec des boutons qui ont une couronne dessus. »
Geneviève se souvint des valets de pied qui remplissaient l'antichambre de Madame de Crussol. Elle se croyait oubliée et rougit de plaisir. Puis, d'une main qui tremblait légèrement, ouvrit le triangle parfumé et lut les mots gracieux par lesquels la comtesse Lise l'invitait à venir le lendemain goûter chez elle avec son frère. Elle ajoutait « C'est pour faire connaissance aux deux enfants. » Le visage de la jeune fille revêtit une expression si radieuse que Maximin s'écria «
Qu'as-tu ? Oh, dis-moi, qu'as-tu ?
Si tu savais, petit, si tu savais quel bonheur ! Tu n'auras plus besoin de mes récits, tu verras par toi-même. »
« Quoi donc ? Quoi donc ?»
La voix de l'enfant haletait d'émotions joyeuses. Ses yeux brillants disaient qu'il devinait à demi, mais il n'osait croire encore à tant de plaisir.
« Demain, tu viendras avec moi. On nous invite à goûter. Tu pourras regarder toutes ces belles choses. Tu t'amuseras avec le petit garçon. »
« Et crois-tu que je pourrais toucher la main de la dame ?» demanda Maximin, très bas, comme honteux d'une ambition trop haute.
« Il me semble qu'elle doit avoir une peau blanche et plus douce que le velours. »
Geneviève répondit par un éclat de rire, si jeune et si frais que les vieux murs en tressaillirent. Il lui semblait qu'un lieu de lumière se rouvrait devant elle. Elle s'en était crue exilée pour toujours et éprouvait une joie expansive à y rentrer. Ils passèrent tous deux des heures charmantes, s'enivrant de leurs plaisirs futurs, se communiquant les enfantillages de leurs pensées. Le frère en ceci, presque plus sérieux que la sœur, moins entraîné qu'elle. Cependant, bientôt la crainte des difficultés à surmonter les attrista. Il fallait demander la permission du père. Depuis quelque temps, il était plus sévère, plus sombre. Toujours anxieux pour Maximin, consentirait-il à cette visite qui était un changement d'habitude si complet. En effet, lorsque le soir, après souper, Geneviève proféra timidement sa requête, il répondit par un refus net.
« Mais comment expliquer ? Je ne sais que faire » balbutia-t-elle déçue.
« Tu peux y aller, je ne t'en empêche pas, » répondit le docteur. « Mais je ne veux pas de cela pour Maximin. Il y a mille inconvénients. Il prendra froid. » mangera des choses qui lui feront mal. Mais je serai là, je veillerai sur lui. Laissez-le venir, père. Sans cela, je n'irai pas.
Tant mieux, répliqua-t-il. Ainsi tu resteras près de lui.
Puis il ajouta avec un geste de lassitude profonde, « Ne me parlez plus de cette affaire, je suis fatigué. » Et il laissa tomber dans ses mains sa tête chauve. Un silence se fit. Au bout de quelques moments, un sanglot étouffé éveilla l'attention du docteur. Il releva les paupières et vit le visage navré de Maximin, ses yeux pleins de larmes. Pour le petit garçon, le désappointement était cruel. Très fier et d'une délicatesse instinctive, craignant d'abuser de son infirmité, il ne demandait jamais rien à son père. Une fois, étant plus petit, il avait exprimé le désir de choses que celui-ci ne pouvait lui donner, et il se souvenait encore du regard douloureux qui avait accompagné le refus. Il restait donc silencieux sur sa chaise, pleurant doucement, tandis que Geneviève, les lèvres serrées, battait la mesure sur le bois de la table, les yeux perdus dans la contemplation des lignes irrégulières qui enrayaient le vernis. Le père écouta un instant le larmoiement de l'enfant, puis demanda de sa voix triste, incertaine, « Cela t'amuserait donc beaucoup de faire cette visite ?»«
Oh oui, papa, j'aimerais tant avoir ce petit garçon malade !»
Monsieur Maoul était ébranlé. Son pauvre enfant jouissait de si peu de plaisir. La même raison qui avait poussé la comtesse Lise à pardonner à Geneviève son regard de compassion décida le consentement du docteur. Monsieur Maoul était ébranlé. Son pauvre enfant jouissait de si peu de plaisir. La même raison qui avait poussé la comtesse Lise à pardonner à Geneviève son regard de compassion décida le consentement du docteur. Il ne voulait pas qu'on promenât dans la maison d'étrangers curieux de l'infirmité de son fils, mais puisque chez les Grussol on souffrait du même malheur, l'inconvénient disparaissait. Il se tourna vers Geneviève.
« Tu me promets de bien le couvrir, de le surveiller.
Je ne le perdrai pas de vue un instant, s'écria-t-elle, le visage épanoui. Et il sera sage comme une image, n'est-ce pas, Maximin ?
Mais, reprit le père d'un accent hésitant, a-t-il des vêtements convenables ? Il faudrait voir cela.
Le docteur semblait péniblement préoccupé. Le visage de l'enfant s'attrista de crainte, mais Geneviève répondit gaiement, avec une confiance superbe, « Il a tout ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas, nous nous arrangerons très bien. » Pourtant, lorsque, demeurée seule, elle eut examiné les nippes de Maximin, son courage diminua. Elle dépliait les vêtements les uns après les autres, les soumettant à l'inspection de la lumière. Partout, elle trouvait des taches, des clairs dans l'étoffe qui ressemblaient à des trous. Entre toutes ces misères, son hésitation fut longue. Enfin, elle se décida pour la jaquette qu'il portait d'habitude. Elle reprisa partout, nettoya les parements salis, changea les boutons. Ensuite, choisissant les meilleures manchettes, le col de toile plus fine, elle les lava, les repassa, effaça les moindres plis. Une coquetterie lui était venue pour Maxima. Le lendemain, elle l'habilla avec un soin extrême, brossant ses épaisses boucles brunes jusqu'à les rendre luisantes. Dans la clarté terne de la chambre, les vêtements propres avaient l'aspect neuf, on ne voyait pas l'usure. Elle le regarda de tous ses yeux, puis, orgueilleuse, l'embrassa. Vincente poussa la chaise jusqu'au bas de la rue, mais au tournant de la place de l'église, Geneviève la renvoya. Sur le dallage régulier de la route nationale, le frère et la sœur cheminèrent doucement. Lui, renversant la tête en arrière pour la regarder, elle, dirigeant d'un mouvement aisé le lourd fauteuil roulant. Tout les amusait dans cette partie de la ville où ils descendaient rarement. Les magasins plus vastes et plus clairs, les promeneurs mieux vêtus.
Ils passèrent devant la maison du cousin Randos, bâtie exprès avec de vastes caves pour le dépôt de ses vins. La porte du bureau vitré laissait apercevoir les tables chargées de registres, les prix courants, reliés en maroquin noir, de grands crus du midi. À côté venait le petit salon du rez-de-chaussée, meublé de velours rouge, qui avait toujours paru aux enfants un lieu de prospérité et d'élégance. On entendait causer à travers la fenêtre ouverte. Les voix étaient un peu hautes, les rires un peu forts. Le cousin vint s'accouder à la croisée. Il salua Geneviève et Maximin d'un bonjour amical et bruyant. Ne voulait-il pas entrer prendre un verre de Frontignan ?
« Cela ne se refuse pas, disait-il.
Sa robuste carrure se faisait bienveillante en se penchant vers la jeune fille. Son visage de blond sanguin, agréable, dans sa vulgarité, riait en la regardant. Cette jovialité l'avait toujours égayée. Aujourd'hui, elle l'impatientait.
« Non, je vous remercie, dit-elle, je suis pressée. »
Il la taquina, voulut savoir où elle allait.
« On nous attend, » répondit fièrement Maximin.
« Eh bien, en ce cas, faites attendre, »
répliqua en riant le cousin Ernest. Sa plaisanterie l'enchantait. Il ajouta en se tournant vers Geneviève, « Au moins, vous me donnerez la main, sans quoi je ne vous laisse pas aller. »
Elle lui tendit ses doigts. Il les serra dans une honnête et vigoureuse étreinte. Puis il suivit d'un regard, gros d'admiration, la démarche ferme de la jeune fille, l'épanouissement de ses épaules.
« C'est bien là la femme qu'il me faut, » murmura-t-il. « Saine, forte, tout le contraire de cette pauvre Madeleine. »
Et il rentra, mûrissant intérieurement les projets qu'il occupait depuis son veuvage. Il avait épousé à 25 ans une femme choisie par son père, la fille d'un négociant de Marseille, enrichie par l'huile de Provence. C'était une pauvre créature maladive, étiolée, d'un blond fade, sans beauté, et, quoique jeune, flétrie déjà. Elle ne lui avait pas donné d'enfant, et au bout de quelques années était morte, n'ayant plus de sang pour vivre. On était surpris même qu'elle eût duré si longtemps. Elle ne laissa pas de regrets à son mari. Il avait été bon pour elle, parce que c'était dans son caractère de ne faire de mal à personne. Mais ce mariage ne lui avait donné aucune satisfaction. Il garda de cette expérience matrimoniale l'antipathie des cheveux clairs et des femmes maladives. Si jolie que fût une blonde, elle ne trouvait pas grâce à ses yeux. Il avait, à cet égard, des théories dont il régalait ses amis au jour de confiance. Ernest Randos était bien décidé, s'il se remariait jamais, à n'épouser qu'une brune robuste. Ses parents étaient morts. Riche, libre, il pouvait choisir à son gré, mais il ne se pressait pas. Sa vie aisée et large de célibataire convenait à sa nature joviale et tout en dehors. Parent éloigné de Maoul, il était le seul membre prospère de la famille. Pour eux, le nom du cousin Randos signifiait prospérité, richesse, toutes les bonnes choses de ce monde. Ils n'apparaissaient dans leur intérieur que pour y apporter une sensation de bien-être. Aussi jouait-il un certain rôle dans les préoccupations de Maximin. Lui, bienveillant de cœur, riait avec l'enfant, plaisantait avec Geneviève. Depuis longtemps, celle-ci le tentait. Il la regardait grandir d'un œil complaisant. Certes, il aurait pu mieux faire. La jeune fille était pauvre. Elle avait la charge d'un enfant malade. Mais en revanche, quelle santé, quelle plénitude! Cela valait bien une dot. Et il pensait avec un tressaillement de répugnance à la pauvre petite mariée souffreteuse qu'on lui avait imposée par l'amour de l'argent. Oui, Geneviève serait sa femme. Mentalement, il lui réservait ce poste d'honneur, mais il n'avait fait encore nulle ouverture, et il attendait qu'elle mûrît davantage. N'ayant pas à craindre de rivaux, il ne se pressait point. Cependant, depuis quelque temps, la voyant de mois en mois devenir plus désirable, il commençait à s'enflammer. Et lorsqu'il rencontrait la jeune fille, l'examinait avec des regards dont l'expression aurait éclairé une femme moins ignorante des choses de l'amour. Mais Geneviève ne s'apercevait de rien. D'ailleurs, leurs entrevues étaient rares. De temps à autre, comme aujourd'hui, elle passait devant son bureau et quelques mots s'échangeaient entre eux. D'habitude, elle n'était pas si pressée de fuir, mais dans ses dispositions actuelles, tout ce qui l'entravait et la retenait lui semblait important. Aussi pressa-t-il le pas après le salut cordial du cousin Randos.
« Je suis sûre que nous sommes en retard, » dit-elle à Maximin avec un petit ton impatient qu'il ne lui connaissait pas.
Cependant, bientôt ils arrivèrent. On les introduisit immédiatement dans la chambre de Lucien. Tout était préparé pour les recevoir, les jouets étalés, les livres d'images ouverts aux meilleurs endroits. Mais d'abord, Maximin ne regarda rien. Toute son attention était absorbée par le petit garçon en blouse de velours, coiffé de cheveux rouges, qui, maussade, détournait le visage sous cette investigation persistante. On avait roulé les deux fauteuils l'un près de l'autre, et afin de mettre les enfants à l'aise, tout le monde s'était éloigné. Enfin, Lucien, ennuyé d'être regardé, demanda « Pourquoi m'examinez-vous ainsi ?»«
Pour vous voir ?» répondit naïvement Maximin.
Cette réplique déconcerta l'enfant. Après un silence, il reprit « C'est vous, n'est-ce pas, le petit garçon malade qui habite dans la vieille rue et qui n'a pas de joujou ?»«
Oui, c'est moi. »
Après avoir regardé autour de lui pour s'assurer que sa sœur ne l'entendait pas, Maximin ajouta avec fierté « Mais cela ne me fait rien de ne pas avoir de jouet, puisque j'ai Geneviève. »
« Geneviève, c'est votre sœur? Elle vous amuse donc? Elle vous tient compagnie ?»«
Toute la journée. »
« Et que faites-vous ensemble ?»«
Nous causons. Elle me raconte des histoires. » »«
Cela doit être agréable de causer. Moi, je ne parle presque jamais, sauf avec Hartfield et quelquefois avec maman. Mais elle reste si peu de temps qu'alors j'aime mieux l'embrasser et jouer avec elle. »
Ces paroles rendirent les deux enfants rêveurs. Chacun pensait au sort de l'autre. Lucien essayait de comprendre ce que devait être la vie avec une sœur toujours présente. Maximin se demandait pourquoi la jolie dame ne venait pas plus souvent près de son petit garçon infirme. Pourtant, elle l'aimait bien. Elle le regardait avec des yeux si tendres. Cependant, pas si tendres que ceux de Geneviève. Et il examinait les deux femmes, les comparant mentalement. Elles étaient de la même taille, mais quelle dissemblance dans tout le reste, entre cette brune sérieuse et cette tête rousse mutine. Ce qui frappait davantage l'enfant, c'était la diversité des accessoires. La belle main hâlée de Geneviève, sortant de sa manchette de toile, paraissait rude et commune en comparaison de la main blanche et petite de la comtesse Lise que voilaient des flots de dentelle. Sur les doigts fluets de celle-ci, des pierres brillantes étincelaient. Leur rayonnement fascinait Maximin. Voyant que les petits garçons ne parlaient plus, Madame de Crussol proposa de goûter. On poussa près d'eux la table couverte de friandises et de bols d'une mousse rose qui se fondait dans la bouche avec un goût de fraise. Maximin la savourait délicieusement. À chaque bouchée, il relevait sur sa sœur des yeux naïvement ravis. Tout était une fête pour lui, la vie, le goût, l'odorat. L'intensité de la jouissance était si grande que toutes ses forces étaient en jeu. Bientôt, elles n'y suffirent plus. Geneviève vit pâlir les joues déjà trop blanches, les yeux se marquaient de bleu. Son cœur se serra. Il paraissait si délicat dans sa pauvre petite jaquette grise avec ses manches trop courtes. À la clarté éclatante du jour qui entrait par les larges fenêtres, on voyait maintenant l'usure du vêtement, la trace des taches nettoyées. Même le linge propre avait un aspect pauvret. Un sentiment de jalousie troubla la sérénité de la jeune fille. Pourquoi ne pouvait-elle habiller Maximin d'une blouse de velours avec un grand col de guipure de Venise? Le caractère du costume siérait si admirablement à son beau visage pensif, bien mieux qu'à l'autre enfant. Et elle se surprenait à détailler la laideur de Lucien, qui avait tous les défauts de la figure de sa mère, sans aucun de ses charmes. Après le goûter, ce fut le tour des jouets. Les théâtres, les citadelles, les écuries défilèrent sous les yeux enchantés du petit garçon. Un monde de plaisirs ignorés s'ouvrait devant lui. Mais il paraissait si exténué que sa sœur voulut partir. Il eut un mouvement d'impatience. « Pourquoi le contrariez-vous ? » demanda madame de Crussol. « Rien n'est plus mauvais. Je défends toujours qu'on irrite Lucien. » Et posant sa main sur l'épaule de son fils, elle se pencha pour l'embrasser. En se courbant, ses vêtements soyeux et parfumés frôlèrent la joue de Maximin. Une sensation envieuse, la première qu'il eût connue, étreignit alors le cœur de l'enfant. Il aurait voulu, lui aussi, être touché par cette main éblouissante de blancheur et de joyaux, sentir la caresse de ses dentelles précieuses, de ses étoffes diaphanes. Au même instant, Geneviève s'approchait pour l'emmener. Il eut honte tout à coup de la robe pauvre de sa sœur, de sa main sans bijoux. Dans un rapide mouvement d'ingratitude, il la désavoua. Il aurait voulu changer de sort avec Lucien. Le retour se fit en silence. Sur le boulevard refroidi, la jeune fille et l'enfant ne regardaient plus rien autour d'eux. Le soleil, en se couchant, semblait avoir emporté leur gaieté. En voyant son frère si attristé et pensif, Geneviève s'accablait de reproches. Elle avait eu tort de l'amener chez les Crussol. Le plaisir, trop vif pour ses forces, l'avait épuisé. Sans doute aussi le contraste, trop grand, faisait naître des regrets. Elle eût voulu l'interroger, mais une répugnance bizarre à aborder ce sujet arrêtait ses questions. Enfin, ils gravirent la vieille rue. Au seuil de la maison, Vincente les attendait, afin d'aider à porter jusque dans l'appartement le fauteuil de Maximin. Pour ne pas lui parler, le petit garçon ferma les yeux. « Je suis fatigué, » dit-il. « Je voudrais dormir. » On le coucha. Il ne demanda pas à sa sœur de l'embrasser et se tourna de côté. Celle-ci, le cœur gros, alla vaquer aux soins du ménage, préparant le souper du père. Lorsqu'elle rentra une heure après dans la chambre de l'enfant, elle le trouva éveillé, les yeux grands ouverts. À peine fut-elle à sa portée qu'il l'étreignit avec force. La réaction était venue. Un remords le tourmentait. Son ingratitude lui faisait horreur. « Pardonne-moi, » murmura-t-il à son oreille, d'une voix passionnée qu'un sanglot faisait trembler. « Pardonne-moi, Geneviève. Je sais que nous sommes plus heureux qu'eux, beaucoup plus heureux. » « Donc, tu ne voudrais pas changer ? » demanda-t-elle doucement, se servant des mêmes mots qu'il avait employés avec Lucien. « Non, non, puisque je t'ai, » dit-il. Et de nouveau, il l'embrassa, mais sans lui avouer, cependant, pourquoi il avait invoqué son pardon.